Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un homme riche avait un économe et celui-ci fut accusé auprès de lui d'avoir dissipé son bien. Mes très chers frères, le Verbe éternel de Dieu nous a enseigné les paroles de vérité au moyen de paraboles, afin que nul ne puisse prétendre n'être pas assez intelligent pour entendre la prédication du royaume de Dieu. Mais la tâche de l'Église, c'est de nous expliquer les enseignements du Sauveur, c'est-à-dire de seconder l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs, afin qu'avec la grâce surnaturelle, le processus rationnel s'effectue conformément à la vérité et à l'analogie de la foi. La plupart des paraboles ne sont pas difficiles à comprendre, encore faut-il avoir la clé pour les comprendre. Notre Seigneur nous a dispensé un enseignement facile à comprendre, facile à retenir, et l'Église nous en donne la clé, sachant que c'est le Seigneur qui la lui a donnée, puisque dans certaines paraboles, nous voyons notre Seigneur donner la clé à ses apôtres, de telle sorte que nous soyons absolument certains que ce sont les apôtres et les successeurs des apôtres qui possèdent la clé de l'Évangile, dans la mesure où eux-mêmes l'ont reçu des apôtres. Alors, mes très chers frères, nous avons aujourd'hui à voir, avec l'aide du Saint-Esprit, dans l'Évangile que vous venez d'entendre, une parabole bien particulière, puisque c'est une parabole quelque peu paradoxale. C'est la seule parabole où, de prime abord, on dirait qu'une action mauvaise est louée, mais nous savons qu'il n'en est pas ainsi. Donc, nous allons essayer de voir, avec l'aide du Saint-Esprit et des Pères, ce que l'Église a à nous enseigner à propos de cette parabole paradoxale. Nous avons trois points à voir dans cette parabole. Dans le premier point, nous donnerons immédiatement la clé de la parabole. Et nous parlerons aussi de cette parabole en tant qu'elle nous exhorte à anticiper le jugement dernier. Et nous nous poserons la question, par qui sommes-nous accusés? Ce sera notre premier point qui dressera la toile de fond. Ensuite, dans le deuxième point, nous verrons les questions que nous devons nous poser en tant qu'administrateurs des biens que le bon Dieu nous a confiés. Nous avons un certain nombre de questions à nous poser et nous verrons aussi ce que les auteurs ont nous enseigné sur l'origine de nos mots et sur leur développement. Les mots dans notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. Et enfin, nous terminerons par un troisième point qui comprendra un certain nombre de considérations pratiques, puisque nous verrons comment pratiquer les indications qui sont contenues dans cette parabole. Nous nous poserons aussi la question de savoir comment savoir ce que nous devons faire et comment le faire avec l'aide de Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. La clé de la parabole, nous la donnons tout de suite, afin que nous puissions entrer dans la compréhension de cette parabole. La clé de la parabole n'est pas très difficile à trouver, puisque c'est notre Seigneur qui la donne lui-même à la fin de la parabole, lorsqu'il dit: les enfants de ce siècle sont plus habiles dans la conduite de leurs affaires que les enfants de lumière. Ils ne louent pas, bien entendu, puisque par l'analogie de la foi, nous savons que notre Seigneur ne prie pas pour le monde, nous savons que Saint Jean nous dit qu'il ne faut pas aimer le monde, etc. Donc notre Seigneur en aucun cas ne loue les mondains qui font leur magouille pour se tirer d'affaires et les donne en exemple à suivre littéralement par ses enfants, par les chrétiens. Bien entendu, vous comprenez qu'il est absolument exclu que nous puissions interpréter la parabole ainsi, ce qui mettrait cette parabole en contradiction avec toutes les autres paraboles et l'enseignement évangélique en général et celui de l'Écriture sainte et de l'Église en général. Donc, il se trouve, mes très chers frères, que notre Seigneur ici, pour nous faire comprendre quelque chose qui ne pourrait pas être compris autrement, nous montre les effets de la concupiscence, les effets de l'orgueil, les effets de la prévoyance humaine d'un mondain pour son temporel, et nous dit, comme saint Paul nous le disait la semaine dernière, je crois, dans l'Épître, il nous dit, si les mondains font ainsi, à combien pour les choses du monde, à combien plus forte raison les chrétiens doivent-ils aussi se déployer des trésors d'efforts pour sécuriser, si l'on peut dire, leurs biens éternels. La semaine dernière, saint Paul nous disait, je parle, à cause de la faiblesse de votre chair, je parle comme suivant une analogie que vous pouvez comprendre, même si, à strictement parler, si j'avais à parler à des hommes spirituels, je m'exprimerais autrement. Sous un certain rapport, nous sommes tellement mondains, mes très chers frères, nous sommes tellement charnels, nous sommes tellement méchants, que notre Seigneur, en quelque sorte, vient nous donner un enseignement là où nous sommes, en tout cas là où nous étions, ou nous ne sommes là où nous ne sommes plus trop loin, pas très loin, enfin bon bref. Il vient nous donner un enseignement qui, aux oreilles d'un chrétien spirituel, peut paraître paradoxal, mais si ce chrétien est véritablement spirituel, il en fera son profit, et bien sûr les chrétiens moins avancés auront, si l'on peut dire, moins de difficultés à comprendre ce que notre Seigneur nous dit. Donc, la clé de la parabole, aujourd'hui, c'est cette proportionnalité que le Seigneur veut que nous comprenions. Si les mondains sont prêts à se décarcasser pour s'assurer leur sort dans l'année qui vient, à combien plus forte raison les chrétiens doivent-ils déployer des trésors d'efforts pour s'assurer du trésor éternel, de la vie éternelle ? Si la concupiscence est ingénieuse, à plus forte raison, nous disent les auteurs, à plus forte raison, la charité. La concupiscence de ce mauvais administrateur lui a fait trouver un stratagème pour être recueilli lorsqu'il aura été jeté hors de la maison de son maître actuel, pour être recueilli auprès de gens qui, disons, qu'il aura en quelque sorte invité à lui renvoyer l'ascenseur, comme on dit grossièrement. Eh bien, évidemment, il ne s'agit pas de faire exactement la même chose, mais il s'agit de montrer aux chrétiens que si la concupiscence est ingénieuse, à plus forte raison, la charité. Pourquoi, mes très chers frères, l'intérêt d'un malhonnête, qu'un malhonnête prend à son avenir temporel, serait-il plus grand que celui d'un enfant de Dieu, que celui qu'un enfant de Dieu prend à sa destinée éternelle? Voilà la clé. Je pense que nous avons compris quelle était la clé de cette parabole. Nous pouvons aller un petit peu plus loin maintenant et commencer à l'examiner dans son enseignement. Un homme riche avait un économe, et celui-ci fut accusé auprès de lui d'avoir dissipé son bien. Il le fit venir et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mon bien. Rends compte de ta gestion, lui dit-il. » Vous avez compris que cet homme riche, c'est bien sûr toujours Dieu, et celui qui est en question ici, l'économe, c'est le chrétien. Rends compte de ta gestion, mes très chers frères, si l'on en croit les commentateurs, ce sont les paroles mêmes, ou le type de paroles, que nous entendrons lors du jugement dernier. Déjà lors du jugement particulier, lorsque nous mourrons, nous passons par un premier jugement, qui est en petit, en quelque sorte, ce que le jugement dernier sera en grand. Rends compte de ta gestion. Il ne s'agit pas de... Le Seigneur ne nous dira pas, lorsque nous comparaîtrons devant lui, est-ce que vous aurez eu des bonnes intentions, est-ce que vous pouvez me dire que vous avez fait de votre mieux. Rends compte de ta gestion. C'est-à-dire, apporter les titres réels de ce que vous avez fait. Et comme il n'y a que ici-bas, dans ce monde sublunaire, où l'on peut mentir, où l'on peut enjoliver la réalité, mes très chers frères, ces paroles « rends compte de ta gestion », nous devons les prendre littéralement, et elles doivent nous faire trembler dans un premier temps, puisque dans l'au-delà, il n'y a plus de possibilité de dissimulation. « Rends compte de ta gestion », il ne s'agit pas simplement d'expliquer à Dieu ce que nous avons fait, il s'agit de contempler, avec l'objectivité qui sera la nôtre alors, ce que nous avons fait, et de reconnaître ce que nous avons fait comme des choses que nous aurons réellement faites, nous, et pas un autre, et ça sera la faute à personne d'autre qu'à nous, si j'ose dire. Moi, m'exprimer d'une façon un peu familière. Rends compte de ta gestion, c'est donc les paroles que nous entendrons lors du jugement dernier. Je vous fais remarquer que, de temps en temps, ici-bas, nous pouvons avoir une idée assez précise de ce que nous sommes. Nous y reviendrons spécialement dans l'examen de conscience ou dans, des fois, certaines lueurs d'objectivité. Mais il se trouve que bien souvent, notre objectivité, c'est-à-dire le fait que nous pouvons nous regarder sans nous protéger à nos propres yeux, eh bien, cette objectivité est bien souvent diminuée par toutes sortes de choses qui relèvent de la subjectivité ou alors d'une objectivité autre, c'est-à-dire que si nous sommes, si nous avons mis notre nez dans des livres, si nous sommes laïcs et que nous avons mis notre nez dans des livres pour confesseurs, etc., nous nous serons forgé une petite objectivité à nous, qui n'a rien à voir, strictement rien à voir avec la science des confesseurs, et il se trouve que à peu près tout ce que nous aurons fait, nous trouverons un moyen, objectivement, évidemment, de le justifier. Telle n'est pas l'objectivité que nous aurons lorsque nous serons dans l'au-delà. Vous savez, mes très chers frères, car certains auteurs le disent, il se trouve que les damnés, lorsqu'ils entendent leur sentence, sont dans une telle objectivité par rapport à eux-mêmes, que c'est en quelque sorte presque sous un certain rapport eux-mêmes qui se précipitent en enfer, sachant que ce n'est que justice pour eux d'être jetés là où a abouti une vie de révolte contre Dieu. Dans l'au-delà, nous serons d'une objectivité à peine croyable pour nous, ici-bas, qui tempéreront constamment le jugement que nous pouvons porter sur nous-mêmes par toutes sortes de contre-jugements qui peuvent nous rendre indulgents. Nous n'aurons aucune objectivité, et cette objectivité sera, nous n'aurons aucune subjectivité, et cette objectivité sera telle que même lorsque le Seigneur nous dira « Venez ici, mes bien-aimés, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, etc. » Nous dirons, mais Seigneur, quand est-ce que vous avez vu avoir faim, avoir soif, être en prison, être malade? La réalité, c'est que les bonnes œuvres que nous faisons sont tellement en réalité l'œuvre de la grâce en nous, que si nous devons nous juger à strictement parler selon un critère de la stricte naturalité, il est impossible de discerner en nous des bonnes œuvres. Il n'y a que Dieu qui discerne en nous les bonnes œuvres et qui les récompense. Vous voyez, mes très chers frères, lorsque nous serons au ciel, Dieu, qui nous voit tels que nous sommes, nous conférera à tous, les élus et les damnés, sa propre objectivité, de telle sorte que nous nous verrons tels que nous devons nous voir, tels que nous serons, et malheur à nous si nous n'aurons pas prêté l'oreille à cette parabole qui, comme nous allons le voir, est justement faite, nous est donnée, l'Église nous l'a fait prêcher, justement pour prévenir ce temps. Rends compte de ta gestion. Faisons très attention, mes très chers frères, viendra un jour où nous ne pourrons plus rien cacher de ce que nous aurons fait. Nous devons rendre compte, nous dit l'Évangile, de toute parole vaine, de toute action. Bien souvent, nous faisons des choses, nous en avons une certaine honte parce que ce sont des péchés, ce sont des faiblesses, ce sont des comme ça, et ensuite nous les oublions. Et la honte disparaît avec l'oubli, mais Dieu n'oublie rien. Saint Alphonse de Liguori, dans un de ses sermons, qui sont toujours des sermons assez terrifiants, dit que si nous oublions, parce que c'est le propre de la créature, en quelque sorte, d'oublier, puisqu'elle ne veut pas cumuler une mémoire vive de tout ce qu'elle fait, Dieu n'oublie jamais. Et s'il nous semble que nos péchés se sont atténués, parce que nous avons perdu de vue nos péchés, ou que, avec la distance et un certain nombre de choses qui sont mises entre nous et eux, nous les avons en quelque sorte, leur importance diminue à nos yeux, Dieu, dans son éternel présent, les voit avec l'objectivité qu'ils ont, en quelque sorte, lorsqu'ils viennent d'être commis. Tous nos péchés s'accumulent devant Dieu, et si nous les oublions, lui ne les oublie pas. Donc, lorsqu'il nous dira « Rends compte de ta gestion », il nous restituera cette mémoire qui, bien souvent, mes très chers frères, nous entretenons les faiblesses, nous ne nous souvenons plus exactement de ce que nous avons dit, et bien souvent, nous faisons même un effort pour l'oublier, cela se peut, en tout cas pour les choses moins importantes peut-être, de telle sorte que bien souvent, même si l'Église nous autorise à dire à la fin de notre confession, en confession sacramentelle, et je demande pardon aussi pour toutes les fautes que j'ai pu oublier, évidemment, l'Église nous dit qu'il faut faire absolument un effort pour se souvenir de toutes ces fautes. Mais c'est vrai que, étant donné que nous sommes faibles, nous oublions. Mais des fois, très bizarrement, nous oublions, et ce n'est même pas tellement un acte de volonté, c'est que notre mémoire, en quelque sorte, s'auto-occulte. Donc, lorsque nous disons, et je confesse, et je déteste, et je regrette tout ce que j'ai pu oublier, ne nous imaginons pas qu'il ne puisse pas y avoir quelque chose de mauvaise foi dans ce que nous disons. Nous pouvons le dire, et l'Église ne veut pas non plus que nous soyons nous torturés. Mais n'ayons jamais confiance. N'ayons jamais confiance ni dans notre objectivité vis-à-vis de nous-mêmes, ni dans les bonnes œuvres que nous aurons pu faire, nous allons le voir dans un instant, qui nous donnent vaguement l'idée que nous sommes quittes. Surtout, n'ayons jamais confiance dans notre mémoire, puisqu'elle oublie un grand nombre de choses que Dieu n'oublie pas et qui sont présentes dans l'éternel présent de Dieu. Rends compte de ton action. Toute action, comme dit l'Écriture, doit être pesée au poids du sanctuaire. Qu'est-ce que c'est le poids du sanctuaire? Littéralement parlant, le poids du sanctuaire, c'est l'étalon, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire c'est, il y avait dans le temple, l'exemplaire des mesures, c'est-à-dire, et c'était à partir de, donc les différents poids, les différents poids utilisés par les Hébreux, il y avait un exemplaire des mesures, de telle sorte que si quelqu'un avait un doute par rapport à un poids qui avait cours dans le marché, il pouvait toujours faire le voyage à Jérusalem, venir, examiner si les deux poids correspondaient et voir si le poids qu'il utilisait ou qui était utilisé pour lui était fautif par rapport au poids du sanctuaire. Donc, le poids du sanctuaire, c'est la mesure par excellence, la règle par excellence, la règle d'évaluation. Il y a trois choses que nous devons savoir par lesquelles la valeur de nos actions, de nos paroles, de nos pensées, la valeur est estimée devant Dieu dans le sanctuaire éternel. La première chose, c'est l'orientation de l'intention. J'ai fait une action, alors ne parlons que des bonnes actions, les mauvaises actions, évidemment, il n'est pas difficile de savoir qu'elles sont mauvaises, mais les bonnes actions. Quelle est la valeur d'une bonne action? La valeur d'une bonne action s'estime, se juge en fonction de l'orientation de l'intention. Il faut, pour qu'une action soit bonne, une action naturellement bonne, pour qu'elle soit méritoire, qu'elle soit surnaturellement bonne, il faut qu'elle soit accomplie pour l'amour de Dieu. Il faut qu'elle soit accomplie pour la gloire de Dieu. Il faut qu'elle soit accomplie en vue de la sanctification du nom de Dieu. Ça, c'est le premier point. Une action bonne n'a de valeur, n'est méritoire, que dans la mesure où l'intention qui nous l'a fait accomplir, ou qui l'accompagne, est explicitement l'amour, la gloire et la sanctification du nom de Dieu. Rends compte de ta gestion, puisqu'il nous est donné encore du temps avant le jugement dernier, apparemment, puisque nous écoutons ce sermon. Donc, rends compte de ta gestion signifie, as-tu fait des bonnes œuvres pour l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu et la sanctification de son nom. Le deuxième critère d'évaluer la valeur d'une action bonne, d'une bonne action, consiste dans la perfection de son accomplissement. Et là, si l'on tremblait déjà par rapport au premier critère, qui peut savoir s'il a fait une action bonne vraiment pour l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu, le désir de sanctifier son nom? Qui peut dire s'il a fait une action aussi parfaite que possible? C'est une bonne chose que de faire une action, grosso modo, pour l'amour de Dieu. Après tout, toute bonne action peut facilement être faite pour l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus facile lorsque vous allez faire votre travail, lorsque vous allez faire quelque chose qui est exigé par votre état, de dire « mon Dieu, je le fais pour l'amour de vous ». Et c'est une excellente chose, et il faut prendre l'habitude de le faire, de le dire, de telle sorte que, nous l'avons dit par ailleurs, que si nous allons faire une action qui ne peut pas être offerte à Dieu, alors c'est une action qui est mauvaise, ou c'est une action qui est incompatible avec une profession de chrétien. Maintenant, il faut être parfait dans l'accomplissement. C'est-à-dire que si nous disons « Seigneur, je vais faire cette action pour vous, pour l'amour pour l'amour de vous aujourd'hui », il faudra la faire d'une façon qui soit le contraire de la négligence ou de la tiédeur. Si une action est faite pour l'amour de Dieu, mais qu'elle est faite avec tiédeur, si j'ose dire, notre Seigneur la vomit d'autant plus. Si la maman, nous prenons toujours cet exemple, parce que c'est un exemple qui est assez parlant, et qui est très, très, très vrai en réalité, il se retrouve tout le temps. Si la maman sait que le petit enfant est en train de lui préparer un petit objet en cadeau, elle s'attend à ce que la chose qu'elle va recevoir soit relativement bien faite, soit relativement belle, soit relativement, mais elle jugera de l'intention. Mais si, par hasard, elle voit le petit enfant qui prépare, je ne sais pas, un petit cadeau pour sa maman, et qui le fait négligemment, et qui donne des coups dedans, et qui dit « Oh, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est suffisamment bien, c'est suffisamment bien », est-ce que la maman va être portée à la même indulgence ? Lorsqu'elle voit le petit enfant qui, secrètement, a fabriqué cette chose, a fabriqué, je ne sais pas, moi, a fait un beau dessin, a fait un petit meuble, a fait un petit quelque chose, un petit objet d'art, enfin, que sais-je, si elle a vu que ce petit enfant s'y est repris à plusieurs fois, si elle a vu que, j'extrapole un petit peu, mais qu'il a sué, il a transpiré pour faire cette chose. Si elle l'a vu être découragée, pleurer un petit peu, se remettre à la tâche pour arriver à, selon les critères de l'enfant, faire la chose la meilleure façon possible. Lorsque cette chose lui sera présentée et qu'elle sera ce qu'elle sera, est-ce qu'elle ne sera pas digne d'être récompensée au-delà de ce qu'elle vaut ? Lorsque nous disons à Dieu, mais lorsque nous faisons une œuvre bonne et que nous oublions, que nous négligeons, ou même que nous ne voulons pas la faire pour la gloire de Dieu, évidemment, d'une certaine manière, ça s'arrête là. Et je dirais même, si nous voulons faire une œuvre bonne et que nous ne pouvons pas la faire pour la gloire de Dieu, probablement que nous allons y mettre tout notre cœur. Ah, c'est sûr que, pour reprendre toujours un exemple facile, le militant auquel Dieu n'a rien demandé va faire le meilleur article possible, la meilleure vidéo possible, le meilleur site possible. Ah, c'est sûr que... Mais tout ceci est vain. Mais le chrétien, le vrai chrétien, lorsqu'il s'apprête à faire quelque chose, lorsque la ménagère s'apprête à faire la nourriture, lorsqu'elle s'apprête à faire le ménage, lorsque un humble père de famille s'apprête à faire son travail, qui est un travail peut-être inintéressant, mais que sais-je, mais honnête, et qu'il dit « Seigneur, je m'apprête à faire cette action pour la gloire de votre nom, pour l'amour de vous », malheur à lui, paradoxalement, s'il ne le fait pas, sans négligence, et avec toute la perfection dont il est possible. Alors, quand nous disons perfection, nous ne disons pas la perfection divine, puisque nous sommes des hommes. Mais il y a une façon de ne pas être Dieu et de ne pas être capable de faire des choses à la perfection divine. Et puis, il y en a une autre, que d'être un homme honnête et un chrétien vigilant qui s'applique à faire la chose aussi bien que possible. Si la mère de famille va passer le plumeau, va faire le ménage, et qu'elle dit « Mon Dieu, je fais ce travail pour l'amour de vous », et qu'elle est négligente, elle aura commis un sacrilège. Puisque c'était un travail qui était supposé être fait pour la glorification du nom de Dieu, et finalement, elle va s'attirer les reproches de son mari parce qu'elle a mal travaillé, et ainsi de suite. Donc vous voyez, mes très chers frères, pour qu'une action soit bonne, il faut qu'elle soit faite pour l'amour de Dieu, mais aussi il faut qu'elle soit faite avec le plus de perfection possible. Le troisième critère, auquel on ne pense pas souvent, mais qui est un troisième critère, pour qu'une action... une bonne action, nous puissions estimer sa valeur, il faut que règne en nous un détachement complet vis-à-vis de son résultat. Attention, nous ne pouvons dire cela qu'après le deuxième point. Il faut que nous fassions la chose de la façon la plus parfaite possible, l'action la plus parfaite possible, et ensuite être détaché de son résultat. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si c'est une réussite, et pourquoi ça ne serait pas une réussite ? Il nous faudra... par humilité et par objectivité, tout rapporter à Dieu. Et si c'est un échec qui est indépendant de notre négligence, je dis bien indépendant de notre négligence, il faudra avoir l'humilité de dire, eh bien Dieu a été glorifié d'une façon invisible par l'intention et non pas par le résultat. Dans tous les cas, il faudra être humble et être détaché du résultat. Si je m'applique, si je fais une action pour l'amour de Dieu, si je m'applique pour l'amour de Dieu, à la faire le plus parfaitement possible. Si j'en récolte des louanges, et c'est fort possible, et que je capte ces louanges, et que je dis, effectivement, j'ai beaucoup travaillé, je suis très satisfait de moi, je commets un double sacrilège. Pourquoi ? Parce que c'était une action supposée être faite pour l'amour de Dieu, la gloire de Dieu, et une action dont la perfection était supposée concourir et corroborer l'intention primordiale, et tout ceci résulte dans la glorification de moi-même. Double, même triple, au moins double sacrilège. Évidemment, celui qui fait une action qui n'est pas pour l'amour de Dieu, qui la fait parfaitement, aura paradoxalement, pourra très bien, lorsque ses confrères, ses complices, plutôt en militant, pourront dire « Ah voilà, je vous recommande la chaîne d'un tel, ça. Oh non, vous savez, ce n'est qu'une petite chaîne de rien du tout, etc. » Que d'humilité, que d'humilité, tout ceci est très facile. Lorsque l'on fait véritablement une action pour la gloire de Dieu, lorsqu'on la fait le plus parfaitement possible, et en combattant la négligence, alors, mes très chers frères, le diable se poste dans le troisième critère et nous dit, après tout, tu as ta part de gloire dans tout cela. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment difficile, parce qu'on a vraiment contré la tendance naturelle de notre vieil homme, et il se trouve que si nous sommes détachés du résultat, quel qu'il soit, alors, mes très chers frères, cette action a une valeur. Et lorsque nous serons devant Dieu, instinctivement, puisque nous serons dans l'objectivité absolue et nous aurons toute la lumière possible pour être objectifs, nous appliquerons ce triple critère à chacune de nos actions, et avec le maître, nous nous dirons à nous-mêmes, rends compte de ta gestion, oui, effectivement, j'ai fait n'importe quoi. Oui, mon Dieu, j'ai accumulé illusion sur illusion, je suis digne d'être damné, damnez-moi. Et si nous avons tout fait bien, comme je l'ai dit, nous allons dire, mais Seigneur, comment pouvez-vous récompenser quelque chose que je n'ai pas fait ? Et Dieu nous dira, c'est vous qui l'avez fait. Et il nous le dira d'autant plus fortement que nous serons habitués à ce détachement par rapport à nos actions bonnes. La gloire de Dieu, qui est à l'origine de toute le désir de la gloire de Dieu qui est à l'origine de nos actions, rejaillira sur nous, mes très chers frères, et nous serons rendus participants de cette gloire de Dieu qui n'est autre que la nature même de Dieu. Car désormais, tu ne pourras plus gérer mon bien. Après la mort, mes très chers frères, il n'y a plus de possibilité de mériter. Après le jugement objectif que nous aurons rendu sur nous-mêmes, corroborant, si j'ose dire, mais d'une façon surérogatoire, de toute façon inutile, le jugement de Dieu, nous ne pourrons pas dire « Seigneur, accordez-moi encore une chance, accordez-moi encore de pouvoir faire pénitence, accordez-moi seulement un petit peu et je vous rendrai tout. » Ce n'est plus le moment. Ce ne sera plus le moment, mes très chers frères, car désormais, nous ne pourrons plus gérer le bien que Dieu nous avait confié pour que nous nous sanctifions avec lui, c'est-à-dire notre état. Vous remarquez, nous sommes passés directement au discours du maître, mais la parabole commence un peu plus haut. Un économe, et celui-ci fut accusé auprès de lui d'avoir dissipé son bien. Qui est-ce qui nous accuse ? Nous sommes accusés par plusieurs accusateurs, mes très chers frères. Nous sommes accusés par trois accusateurs. Écoutez bien. Nous sommes accusés, premièrement, par la qualité des résultats. C'est-à-dire la qualité de nos œuvres, la qualité du résultat de nos œuvres. Nos œuvres ne sont jamais des velléités, nos œuvres sont toujours les résultats d'un acte de la volonté. Par la qualité des résultats de nos œuvres. Quand on n'agit que par orgueil ou par un orgueil caché, mes très chers frères, cela se perçoit assez aisément. D'ailleurs, nous sommes toujours très irrités ou très incommodés par l'orgueil de notre prochain. Lorsque nous avons, mettons, un artisan qui travaille très très bien, et qui fait son travail très très bien. Nous le payons pour faire son travail, et c'est un travail excellent. Et qu'au moment où nous allons lui dire « Vraiment, vous avez fait un excellent travail », cet artisan qui a excellemment bien travaillé dit « Regardez, j'ai fait un excellent travail », ben du coup, nous n'avons plus vraiment envie de lui dire, même si c'est vrai, même si c'est vrai qu'il a fait un bon travail. Voyez, donc même si, nous remarquons que même si quelqu'un est excellent, lorsqu'il se vante lui-même, lorsqu'il est orgueilleux, même à juste titre, il est assez insupportable. Alors, a fortiori, quelqu'un qui est orgueilleux alors qu'il n'a aucune excellence. Et a fortiori, aux yeux de Dieu, mes très chers frères. La qualité de nos actions est notre premier juge devant Dieu, notre premier accusateur plus précisément devant Dieu. Lorsque Dieu nous... Vous savez, lorsque un service public demande... Une municipalité demande à une entreprise de faire quelque chose, des travaux publics. Lorsqu'on c'est le moment des comptes, on va dire, ben voilà, alors l'évaluation, regardez, les choses parlent d'elles-mêmes. Regardez, c'est à peine fini, ça tombe déjà en ruine. Les choses parlent d'elles-mêmes. Le premier accusateur que nous aurons, mes très chers frères, devant Dieu, c'est la qualité de nos actions. ont-elles été faites pour la gloire de Dieu, pour l'amour de Dieu, dans toute leur perfection, dans toute la perfection possible, et avec un grand détachement? Si ce n'est pas le cas, mes très chers frères, nos premiers accusateurs seront nos actions mêmes. Notre deuxième accusateur, nous le savons, mes très chers frères, c'est le diable. Parce que le diable est l'accusateur des frères. Le diable, sous un certain rapport, quelque part, si l'on peut dire, dans le tribunal de Dieu, il se tient quelque part et il relève les défauts d'intention et les défauts d'exécution. Et il les exacerbe, si l'on peut dire, c'est-à-dire que, non pas qu'il mente devant Dieu, mais il est là pour les relever en quelque sorte. C'est pour cela que, même lorsqu'il s'attaque au juste, comme le saint homme Job, par exemple, il dit, oui, mais est-ce que c'est vraiment avec toute la pureté d'intention que Job vous obéit et se soumet à votre providence? Après tout, vous lui avez surtout enlevé des biens matériels, vous lui avez laissé sa santé. Le deuxième accusateur, mes très chers frères, après la mauvaise qualité et après la qualité de nos œuvres, c'est le diable. Le diable est notre accusateur. Je ne m'étendrai pas trop longtemps parce que c'est tout un sujet. Mais enfin, le diable nous accuse devant Dieu. Et vous savez, bien souvent, nous n'avons même pas besoin du diable pour être vraiment accusables, puisque nos actions témoignent contre nous-mêmes. Et il ne faut pas oublier un troisième accusateur. Les troisièmes accusateurs, ce sont les anges. Ce sont les anges serviteurs de Dieu, non plus le diable maintenant qui est un ange déchu, mais les anges parce qu'ils sont jaloux de la gloire de Dieu, parce qu'ils sont zélés, comme nous le voyons dans diverses paraboles, en particulier dans la parabole du bon grain et de la zizanie. C'est-à-dire que les anges demandent « Voulez-vous que nous allions arracher l'ivraie ?» Et Dieu dit « Non, pas encore, pas avant le temps de la moisson. » Les anges, sous un certain rapport, même s'ils ne nous accusent pas comme le diable, mais on pourrait dire que le diable tient en quelque sorte son rôle d'accusateur de sa nature angélique. Les anges veulent que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Et le diable n'a pas perdu cette tendance en disant « Mais la seule chose qu'il relève, le fait qu'il relève quand les choses ne sont pas faites pour la gloire de Dieu, et d'une certaine manière, cela l'enchante, puisque cela mérite que la personne qui a fait la chose, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour elle-même, le rejoigne en enfer. Les anges, sous un certain rapport, un rapport assez mystérieux, et nous n'approfondirons pas ici, mais ne nous accusent pas forcément d'une façon directe, mais leur attitude est une attitude qui nous accuse. Parce que eux font tout pour la gloire de Dieu avec un zèle inextinguible et sans limite. Écoutez ce que dit encore le maître. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Et ensuite il dit, rends compte de ta gestion. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Dans cette parabole qui est en réalité extrêmement terrifiante, extrêmement dramatique, il y a une touche de bonté. Et la bonté ne vient pas des accusateurs, la bonté ne vient certainement pas de la personne en question, de l'économe infidèle, la bonté paradoxalement vient du maître. Le maître dit « qu'est-ce que j'entends dire de toi ?» C'est un petit peu comme si le maître était naïf, disait « je ne me suis jamais rendu compte, mais effectivement on m'a dit que tu étais un mauvais économe, alors maintenant il va falloir que ça change. » Vous voyez, paradoxalement, pour ne pas nous enfoncer, pour ne pas nous pousser au désespoir, notre Seigneur met une touche de naïveté dans le maître de sa parabole pour nous montrer la bonté divine. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Le but de la parabole est de réveiller en nous la charité. Nous avons encore le temps, mes très chers frères. C'est pour ça que le maître nous dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Bientôt vous n'aurez plus le temps. Bientôt vous ne pourrez plus. Qu'est-ce que j'entends dire de vous aujourd'hui ?» alors que vous êtes en état de voie, alors que vous avez encore le temps. Qu'est-ce que j'entends dire de toi, mes très chers frères? Sachons saisir au vol cette immense mansuétude de Dieu qui ne fond pas sur nous comme les anges voudraient se précipiter sur l'ivraie pour la jeter au feu. Il nous dit cette parole qui est une parole tampon, en quelque sorte, une parole préparatoire. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Est-ce que par hasard ce serait vrai? Est-ce que par hasard ce serait faux? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Quelle bonté au sein de cette parabole terrifiante! Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Il est encore temps, mes très chers frères. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Notre Seigneur nous invite ici Par cette parabole, nous disent les auteurs, si j'ose paraphraser, à une répétition générale. Faisons comme si le jugement dernier était arrivé. Faisons comme si vous étiez de l'autre côté de la barrière, au jugement particulier. Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Faites semblant pour voir ce qui arrivera. Et ce n'est pas un exercice tout à fait inouï ou extraordinaire. Les écoliers font des examens blancs, les étudiants font des examens blancs, les forces de l'ordre font toujours des exercices. Il n'y a pas de danger. L'armée, on fait des exercices, mais il n'y a pas d'ennemis devant. Mais pourquoi ? C'est pour être prêt au jour où, vous voyez, au jour où on en aura besoin. Tout le monde est tout le temps en train de répéter. Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Quelle, dans cette parabole, toute paradoxale, quelle immense mansuétude de Dieu qui dit « ce n'est pas encore le moment ». Ce n'est pas encore le moment, vous pouvez encore modifier les choses avec mon aide. Lorsque nous faisons notre examen de conscience, mes très chers frères, imaginons être au jugement dernier. Alors je sais très bien que le faire avec une parfaite intensité tous les jours, c'est très difficile, c'est extrêmement difficile, voire c'est même éventuellement impossible parce que l'homme est une petite nature, l'homme est fatigable, fatigué, et puis on n'a pas toujours tout à l'esprit, même si on a la bonne volonté. Mais de temps en temps, autant que possible, autant que l'humaine faiblesse le rend possible avec l'aide de Dieu, faisons notre examen de conscience comme si nous étions au jugement dernier. Bien souvent, nous hésitons parce que nous nous disons si j'énumère véritablement tout ce que j'ai fait de mauvais, mais finalement Dieu va fondre sur moi et va me précipiter en enfer. Donc il vaut mieux tergiverser et faire semblant de rien, comme ça au moins ça n'attire pas l'attention de là-haut. Je pense que vous comprenez rien que par le fait de décrire cette attitude, quelle sottise est cette attitude-là. D'ailleurs, Dieu n'est pas un ange. Dieu n'est pas un ange qui est prêt, si Dieu ne le retenait pas, si son supérieur ne le retenait pas, à fondre sur nous avec un zèle et une jalousie qui est assez terrifiante. Dieu est Dieu. Vous savez très bien que les supérieurs absolus sont toujours plus miséricordieux que les supérieurs relatifs. C'est pour ça qu'on dit parfois il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Alors c'est un peu sacrilège de le dire, il ne faut pas le dire comme cela, mais sous un certain rapport, il y a quelque chose de vrai. Si nous nous adressions à un ange, à un séraphin, un chérubin qui brûle d'amour pour Dieu, et nous lui montrions nos péchés, mais probablement que si Dieu s'il était à la place de Dieu, si l'on peut dire, et que Dieu ne soit pas là, si par impossible c'était possible, il nous châtierait du dernier châtiment. Dieu est miséricordieux. Pourquoi ? Mais parce que c'est ainsi. L'intendant du royaume, le général, le préfet, que sais-je, est toujours plus rigoureux que le roi. C'est le rôle du roi d'être, c'est l'apanage du roi d'être miséricordieux, c'est l'apanage du préfet d'être rigoureux. Faisons donc notre examen de conscience, mes très chers frères, comme si nous étions au jugement dernier, et regardons-nous avec le plus d'objectivité possible. Souvenons-nous, j'espère que vous les avez notés, de ce triple critère pour évaluer la valeur de nos actions. Orientation de la volonté, pour l'amour de Dieu, perfection dans l'accomplissement, détachement vis-à-vis du résultat. Amour, perfection, détachement. Amour, perfection, détachement. Pas très difficile, et en plus c'est logique quand on y pense, c'est un enchaînement logique. Amour, perfection, détachement. Si nous faisons cet examen de conscience comme si nous étions au jugement dernier, si vous l'avez déjà fait, probablement que votre cœur sera envahi par une certaine terreur. Eh bien, laissons-nous envahir par cette terreur, mes très chers frères. Vous allez dire, et la bonté de Dieu ? La bonté de Dieu, justement, c'est pour éviter d'en abuser. La miséricorde de Dieu et la patience de Dieu, c'est pour éviter d'en abuser que nous sommes dans cette répétition générale. Alors ne parlez pas de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, nous en aurons besoin au jugement dernier. Au jugement dernier, nous devons, pour pouvoir y arriver avec un minimum de confiance, nous devons, sainte confiance, nous devons faire la répétition. Alors nous ne disons pas comme des acteurs, des mauvais acteurs, je prends cet exemple paradoxalement, des mauvais acteurs qui disent « Oh, mais le public est indulgent ». Non, faisons jouons la pièce le mieux possible, et s'il se trouve qu'il y a quelques oublis, quelques-uns, le public, on peut compter sur une certaine indulgence. Mais voyez, donc, mutatis mutandis, c'est la même chose. Dieu est indulgent, soyons donc impitoyables vis-à-vis de nous-mêmes. Il nous faut nous laisser envahir par la terreur de cette répétition du jugement dernier et canaliser la terreur en contrition. Si nous disons, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, si c'était le jugement dernier, je serais damné, je suis damné, c'est tant pis, je suis damné, je suis... Quel imbécile! C'est justement, c'est une répétition. Le petit élève là qui fait le bac blanc et puis qui l'a raté, s'il se met à se taper la tête contre les murs, à pleurer, à supplier ses parents de lui pardonner, bah, d'une certaine manière, c'est un idiot. C'est une répétition, c'est pour voir ce qu'il vaut. Donc au lieu de pleurnicher bêtement, qu'il se mette à réviser, qu'il se mette enfin à travailler. Donc plutôt que de nous laisser envahir par la terreur en disant Dieu est méchant, je n'y arriverai jamais, etc., mettons-nous plutôt à travailler, mes très chers frères. C'est le moment. Canalisons cette terreur en contrition. Ça ne sert à rien de dire je n'y arriverai jamais. Bien sûr que nous n'y arriverons jamais. C'est avec la grâce de Dieu que nous arriverons à tout. Donc canalisons cette terreur relativement à la nature en contrition surnaturelle, de telle sorte que nous ayons une véritable détestation des choses dont nous rougissons aujourd'hui, comme disait saint Paul la semaine dernière, et que nous prêtions à toutes les rectifications nécessaires, rectifications qui seront d'autant plus faciles, si j'ose dire, avec l'aide de la grâce de Dieu, à accomplir, qu'elles seront faites par la gratitude, par le fait d'être dans la gratitude, gratitude qui est liée au fait que, après tout, ce n'est qu'une répétition générale. Et que nous avons encore du temps, et que, avant de nous entendre dire « rends compte de ta gestion », le maître nous dit « qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Prépare-toi ! » Nous arrivons à notre deuxième point, après avoir posé, disons, la toile de fond pour une bonne compréhension de cette parabole. Et si nous en restions là, nous aurions déjà pas mal de choses. Mais ce n'est que l'introduction, mes très chers frères. Ce n'est que l'introduction. Allons un tout petit peu au fond des choses, autant que c'est possible. C'est impossible dans l'absolu, mais c'est possible si on fait un effort avec l'aide du Saint-Esprit. Regardez ce que dit l'économe. L'économe dit alors en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'ôte la gestion de mon bien ? Que vais-je faire ? Nous sommes... » Nous sommes donc dans l'interprétation, nous interprétons la parabole comme il faut, c'est-à-dire nous sommes déjà au deuxième degré. Que vais-je faire? C'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Que vais-je faire? Il est encore temps, mes très chers frères, il est toujours temps, et c'est pour cela que cette parabole est extrêmement intéressante. Que vais-je faire? Quid sum misertum dicturus, disons-nous dans le Dies Irae. Qu'est-ce donc que je vais dire? Pauvre de moi, qu'est-ce que je vais dire? Quid sum misertum dicturus. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Misérable que je suis, pauvre que je suis. Lorsque nous assistons, je sais que c'est bien difficile de nos jours, mais enfin, pour les fidèles, mais lorsque nous assistons à une messe de Requiem, ou même une messe votive pour les défunts, une messe pour les défunts, quotidienne pour les défunts, et que nous entendons le Dies Irae, réciter ou que nous le lisons par dévotion, par piété, prenons-le au sérieux. Le Dies Irae est une des séquences les plus terrifiantes de toute la liturgie. On entend le hurlement non seulement des damnés, mais le hurlement de la nature qui pourrait oublier la nature des élus, qui pourrait oublier que c'est par les mérites du Christ qu'ils ont mérité la vie éternelle. Quid sum misertum dicturus. Quem patronum rogaturus. Alors on dit, je me réfère à mon saint patron, etc. Mais au dernier moment, même les saints patrons seront jugés, d'une certaine manière. Car nous passerons tous au jugement dernier. En jugement. Même les saints. Il nous faut prévenir le grand jour, mes très chers frères, en faisant dès à présent ce que l'on voudrait avoir fait au moment de sa mort. Pour faire cet examen de conscience, cet examen extraordinaire de conscience, couchons-nous sur notre lit, comme si nous étions en train de mourir, et disons-nous, voilà, maintenant je passe en revue autant que je le peux tout ce que j'ai fait de mal, tout ce que j'ai fait de négligent, avec négligence, tout ce que j'ai fait de bon sans l'amour de Dieu, c'est-à-dire qui ne compte pour rien, et je me dis, qu'est-ce que je pourrais me dire, qu'est-ce que je voudrais avoir fait si c'était mon dernier jour, si c'était l'heure de ma mort? Eh bien, le grand avantage d'un tel exercice, qui est un exercice assez terrifiant, il faut le dire, c'est que ce n'est pas l'heure de votre mort. Ce n'est pas le dernier jour de votre mort, Dieu voulant. C'est que, dans un instant, vous allez vous relever, et vous allez vous avoir dans votre mémoire, de personnes bien vivantes, par la grâce de Dieu, l'idée que vous auriez eue si c'était la fin. Alors vous allez dire, oui, mais je ne peux pas me prêter, etc. Si vous ne pouvez pas vous prêter à ça, mes pauvres amis, c'est que vraiment vous êtes dans un état spirituel vraiment très pitoyable, puisque vous ne voulez pas vous profiter de la main tendue de Dieu, vous ne voulez pas profiter de... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus rien à faire, parce que je n'en sais rien, mais en tout cas, faites un effort et arrêtez de dire, je ne peux pas, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop terrifiant. Vous verrez, il y aura un jour où ça sera le jour de l'examen, et on regrettera de ne pas avoir bien travaillé pour s'y préparer. Alors, maître et cher frère, il faut que nous fassions l'effort de nous dire objectivement qu'est-ce que je voudrais avoir fait au dernier jour de ma mort. Au jour de ma mort. Voyez, prenons des exemples communs qui nous concernent tous. C'est le jour de notre mort, et nous apercevrons que pendant tous les carêmes que nous avons vécu, nous avons toujours poussé les limites du licite. Nous avons mangé des choses jusqu'à la limite, exclusivement bien entendu, mais du licite. Nous avons essayé de gratter des dispenses alors que nous n'avions pas absolument besoin, que nous étions encore relativement assez jeunes pour pouvoir faire ça, alors que ces dispenses auraient été plus légitimes à un âge peut-être à quelques années de là. Nous aurons négligé de lire l'Écriture sainte en nous disant c'est trop compliqué, je suis trop fatigué, etc. Lorsque ça sera le dernier jour, lorsque ça sera le dernier instant de notre mort, même les mondains disent que tout ce qu'on a fait repasse en un instant devant nos yeux. Et nous verrons tout ce que nous aurons fait et qui, aujourd'hui, ne nous servira à rien, ou que nous aurons voulu faire mieux. Mais ce n'est pas le jour de notre mort aujourd'hui. Donc nous pouvons, dès à présent, faire beaucoup mieux ce que nous faisions jusqu'à présent avec négligence. Vous voyez, nous disions il faudrait que je lise les bons livres qu'on me donne à lire, etc. Mais c'est fatigant, c'est fastidieux, j'ai d'autres choses à faire. Oui, mais ces livres nous montrent et nous enseignent et nous rappellent la voie de la vie éternelle. Comment connaîtrions-nous la voie si nous ne sommes pas familiers avec elle? Rends compte de ta gestion. Que vais-je faire puisque mon maître m'ôte la gestion de son bien? Qu'est-ce que ça signifie, se voir ôter la gestion du bien? Qu'est-ce que le bien? C'est l'état. Qu'est-ce que la gestion du bien? C'est le fait de se sanctifier par le devoir d'état. Nous avons bien sûr un devoir d'état général de tout chrétien, c'est-à-dire le devoir d'état de tout baptisé, et c'est-à-dire il y a des grandes, dans les grandes lignes, par exemple, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, cela, c'est quelque chose qui s'applique à tous les chrétiens. Les 10 commandements s'appliquent à tous. Après, ensuite, il y a un certain nombre de choses qui polarisent en quelque sorte dans nos états particuliers ces commandements. Si nous sommes religieux, nous devons avoir un amour très particulier pour Dieu. Si nous sommes, par exemple, marchands, nous devons être très, très attentifs aux commandements par rapport au vol, par rapport au mensonge. Si nous sommes un juge, par exemple, nous devons être très attentifs aux commandements par rapport à l'équité, par rapport aux faux témoignages, etc. Ces choses qui, donc, état général, état particulier. Bien entendu, ce sont des choses que tout le monde connaît. La vraie prudence, nous dit un auteur, consiste à savoir faire tout servir à son salut. Bientôt, la gestion me sera ôtée. Que ferai-je? Eh bien, pour nous qui avons encore le temps, il faut faire tout servir à son salut. La vraie prudence, et c'est une parabole qui nous apprend la prudence, justement, c'est-à-dire la sagesse prévisionnelle, la vraie prudence consiste à savoir tout faire servir à son salut. J'aurais voulu aller à la messe, mais je ne peux pas, je dois sanctifier mon dimanche le dimanche autrement. Eh bien, je vais sanctifier mon dimanche de telle sorte que toute ma famille puisse être édifiée. Et je vais faire ce que je dois faire avec le plus d'excellence possible, afin que je puisse être béni, même si je n'ai pas la bénédiction, malheureusement, les grâces qui sont liées à l'assistance à la messe, mais c'est absolument impossible parce que je suis loin de tout, etc. Je vais donc m'appliquer à sanctifier ma famille, si je suis un père de famille, une mère de famille, je vais sanctifier ma famille, de dimanche, de telle sorte que ma famille puisse recueillir toutes sortes de biens qui compenseront les biens que nous avons pu obtenir par notre impossibilité d'assister à la messe. Et ainsi de suite. Je voulais faire quelque chose de plus grand et quelque chose de plus petit. Je voulais qu'on me confie une grande tâche, on me confie une petite tâche. Eh bien, cette petite tâche, je vais la faire sans négligence. Mais c'est vexant, mais c'est injuste, on m'a spolié d'une grande tâche. Eh bien, je vais faire avec excellence cette petite tâche que Dieu lui-même m'a fait attribuer. Mais pourquoi est-ce que Dieu m'aurait privé injustement? Croyez-vous vraiment que dans l'absolu, indépendamment de la méchanceté des hommes, telle injustice que nous subissons soit une vraie injustice par rapport à Dieu? On est injuste avec moi, on ne me reconnaît pas mon juste mérite. Mais par rapport à Dieu, nos mérites sont nuls. J'ai fait une œuvre très grande, j'ai fait beaucoup de travail. Je suis un petit enfant, ma maman m'a demandé à ma sœur et à moi-même de faire le ménage. Il se trouve que elle n'a vu que ma sœur faire le ménage, elle sait que je l'ai fait, elle pense que j'ai fait moins de ménage que ma sœur. Elle félicite ma sœur et elle me félicite aussi dans la foulée, mais en insistant. Est-ce que c'est une injustice? C'est une injustice relative, mais est-ce que par ailleurs il n'y a pas des occasions, il n'y a pas eu des occasions dans ma vie ou d'enfant où, n'ayant pas été vu faire le mal, on ne m'a pas fait de reproche? Eh bien cela compense, et c'est vrai pour les adultes aussi. Voyez mes très chers frères, il n'y a pas d'injustice à strictement parler. Vous savez ce que disent les auteurs, et c'est terrible pour ceux qui souffrent des choses très graves et très, très, très mauvaises, mais il n'y a qu'un seul mal, c'est d'être privé de la grâce de Dieu. Il n'y a qu'un seul mal, c'est le péché. Tout le reste que l'on subit, ce sont des maux, et ce sont des maux dont la prudence nous apprend, à propos desquels la prudence nous apprend, que la prudence nous apprend à utiliser pour notre sanctification. La prudence consiste à savoir tout, à savoir faire tout servir à son salut. Comment est-ce que l'économe en est-il arrivé là? Alors, sans rentrer dans la psychologie de cet économe, je citerai simplement Saint Chrysostome qui dit ceci. Quand on se dit, je paraphrase, quand on se dit qu'importe telle ou telle chose, ou quel mal y a-t-il à cela, vous voyez ces petites phrases que les chrétiens se disaient il y a 1500 ans, et puis qu'ils se disent toujours aujourd'hui, qu'importe telle ou telle chose, qu'importe que vraiment que je lise l'Écriture sainte aujourd'hui, alors que je la lirai demain, l'essentiel c'est de dire ma prière, etc. Qu'importe, quel mal y a-t-il à ça? Après tout, est-ce que c'est vraiment mal? Effectivement, la question se pose, et la théologie morale distinguera entre ce qui est péché véniel, ce qui est absolument à exclure, ce qui est indifférent, etc. Mais, voyez-vous, c'est une chose que d'être un théologien et d'écrire des traités de théologie morale, et puis c'en est une autre que d'être un chrétien, d'ailleurs le théologien est un chrétien, et de se dire, oh, quel mal y a-t-il à ça? Attention, mes très chers frères, quel mal y a-t-il à ça? Quand on se pose la question, c'est que déjà on est sur la pente. Quand on dit, oh, qu'importe telle ou telle chose que je fais, mais c'est qu'il y a un doute. Il y a un doute. Quel mal y a-t-il à cela? Est-ce que c'est vraiment mal? Est-ce que le Seigneur a vraiment dit? Alors vous avez dit, mais non, mais je ne vais pas jusque-là. Mais après tout, est-ce quel mal y a-t-il à ça? Regardez, je fais ça, mais est-ce que c'est contraire à la foi? Oui, mais vous vous posez la question. Lorsque vous allez à la messe, vous ne dites pas, quel mal y a-t-il à aller à la messe? Mais non, ça ne vient même pas. Lorsque vous éduquez vos enfants, lorsque vous appliquez à tout faire pour l'amour de Dieu, est-ce que vous dites quel mal y a-t-il à cela? Mais non, bien sûr que non, ça ne se pose pas. Mais lorsqu'on fait une action indifférente qui présente un danger lointain, nous nous disons mais quel mal y a-t-il à cela? Après tout, le raccourci passe par la route de la mer. Disons cela parce que nous sommes à côté de la mer, après tout, quel mal y a-t-il à cela? On ne regarde pas les baigneurs qui sont là dans un état d'impudicité indescriptible. Après tout, quel mal y a-t-il à cela? On est pressé, oui, mais il y a un danger. Il y a un danger d'avoir son âme souillée par toute cette impudicité. Quel mal y a-t-il à cela? Vous voyez, à strictement parler, quel mal y a-t-il à prendre une route plutôt qu'une autre? Mais aucun. Mais dans cette circonstance-là, ne vaut-il pas mieux prendre le risque d'être un tout petit peu en retard plutôt que de prendre le risque de voir son âme souillée par ce spectacle? Quel mal a-t-il à cela? Vous voyez, mes très chers frères, l'économe infidèle, chez beaucoup de commentateurs, on discute d'où il est parti et comment il en est arrivé là. Je dirais simplement ceci, l'économe infidèle a commencé par être infidèle dans les petites choses, et puis il a fini par être accusé devant le maître, et le maître a fini par lui retirer la gestion de son bien. Le relativisme moral nous achemine vers, mes très chers frères, vers le relâchement. Le premier péché, nous disent les auteurs, est bientôt suivi par un autre. Les fautes légères entraînent les fautes graves qui entraînent les crimes. L'assoupissement entraîne l'effondrement. Les péchés véniels mènent infailliblement, immanquablement, au péché mortel. C'est une chose que de commettre des péchés véniels par surprise, c'est une chose que de commettre des péchés véniels parce que Dieu ne permet pas que nous arrivions à les vaincre pour nous maintenir dans l'humilité parce que nous sommes montés très haut dans la spiritualité, c'est une chose. Et puis c'en est une autre que de dire « Oh ben c'est un péché véniel, c'est pas grave, c'est un péché véniel, c'est un péché véniel. » Oui, c'est un péché véniel. Mais 10 000 péchés véniels font une masse de tâches qui, si jamais encore une tâche y était agrégée, formerait une tâche totalement opaque. Lorsque vous êtes aspergé par un stylo qui vient d'exploser, un stylo d'encre qui vient de tomber par terre, qui vient et vous êtes aspergé, est-ce que vous allez dire « Oh, mais ce ne sont que des petites tâches, oh, mais c'est une multitude de petites tâches !» Et c'est une multitude de petites tâches qui fait que votre vêtement est perdu, que votre vêtement est entièrement souillé. Un mal négligé devient incurable. Une petite omission volontaire qui ne paraît d'abord rien nous jette insensiblement dans une paresse qui nous tue. Une petite omission volontaire qui ne nous paraît d'abord rien nous jette ensuite insensiblement dans une paresse qui nous tue. Nous devons être, et ça c'est une grande maxime de l'Évangile, nous devons être fidèles dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Si la jeune recrue à l'armée, qui est entrée à l'armée parce qu'elle voulait combattre les grandes batailles, un peu comme on a vu dans tous les temps, des grandes batailles, et qu'on lui dit « bon maintenant c'est le moment de nettoyer les toilettes, c'est le moment de faire des entraînements, c'est le moment de faire des pompes, c'est le moment de courir, c'est le moment de creuser des trous. Oui, mais moi je ne suis pas venu ici pour creuser des trous, pour nettoyer les toilettes. Pour... » Oui, mais si vous nettoyez pas les toilettes, vous n'allez pas avoir l'habitude d'obéir au chef en quoi qu'il vous dise. Si vous ne creusez pas des trous, vous ne saurez pas vous creuser un trou au moment où vous aurez besoin de creuser un trou. Si vous ne savez pas, si vous ne voulez pas faire de la course à pied, vous ne pourrez pas courir sur le champ de bataille. Ah oui, mais je préférerais faire du tir. Oui, mais à quoi bon faire du tir si vous êtes épuisé sur le champ de bataille, vous n'allez même plus arriver à lever votre arme. Donc vous voyez, mes très chers frères, une chose en entraîne une autre. Et ce qui est encourageant, c'est que quand on est fidèle dans les petites choses, on sera aussi fidèle dans les grandes choses. Si on veut être fidèle dans les grandes choses et qu'on est infidèle dans les petites choses, les grandes choses non seulement nous seront inaccessibles, non seulement nous faillirons, lorsque les grandes occasions se présenteront, mais surtout, ne pensons pas que Dieu nous présentera des grandes choses à faire. Si vous avez un combat, une bataille à mener, et que vous avez tout un régiment de paresseux et de feignants, et que vous avez un autre régiment de soldats qui se sont entraînés pendant des mois et des mois, et que vous êtes l'amiral, l'officier général, le capitaine, le chef, qu'est-ce que vous allez dire? On va utiliser les uns, pas les autres, surtout pas les autres. On va à la catastrophe. Croyez-vous que quand vous aurez été infidèle, quand vous êtes infidèle dans les petites choses, Dieu va vous dire, oh ben finalement, il sera peut-être plus fidèle dans les grandes choses si je lui en prête, mais il n'est surtout pas lui. Surtout pas lui. Être fidèle dans les petites choses, c'est une des grandes maximes de l'Évangile. Que vais-je faire? Dit l'économe infidèle, que vais-je faire? Que vais-je faire? C'est une question, mes très chers frères, qui dès lors qu'on se la pose, nous montre qu'il est encore temps. Il est encore temps, mes très chers frères. Il vous semble que ce sermon est décourageant, c'est que vous ne comprenez rien et que vous êtes paresseux. Il est encore temps. Il est encore temps. Notre maître nous a dit simplement, n'a fait que nous dire, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Et nous, nous avons encore le temps de dire, que vais-je faire? Comment je vais me retourner? Et nous arrivons au troisième et dernier point, que vais-je faire, mes très chers frères? Travailler la terre? Je ne le puis. Et je rougis de mendier. Alors, dans l'interprétation de cette parabole paradoxale, parce qu'on voit que cet homme est assez feignant d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est un administrateur qui n'a pas le physique pour travailler la terre. Travailler la terre, c'est très difficile. Donc, travailler la terre, je ne le puis. Les auteurs nous disent, les exercices rigoureux de l'ascèse ne sont pas accessibles à tout le monde. Alors, que vais-je faire? Et c'est là où j'ouvre une petite parenthèse pour dire que, malheureusement, il y a toute une pédagogie au XXe siècle qui a, finalement... Elle se tient sous un certain rapport, elle est bonne, mais elle présente un vice majeur. C'est que par l'assimilation de l'ascèse à la performance ou à l'entraînement physique ou psychologique, on a perdu de vue que l'ascèse est avant tout mu par l'esprit pénitentiel. Lorsqu'on dit, voilà, il faut se lever tôt le matin, parce que, voyez, après tout, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai que si on paraisse dans son lit, il y a toute une quantité de désagréments qui arrivent, et on va, bien entendu, si les enfants sont habitués à cela, on risque fort bien d'en faire des paresseux. C'est évident. Mais si on oublie que la gêne ressenti lorsque l'on fait cet effort pour se lever tôt et surmonter un peu toutes sortes de dérangements de gêne, disons, connexes, disons, à cet. Il faut, et si on oublie complètement que c'est par pénitence qu'on le fait, mais que c'est simplement, et qu'on met tout sur la performance ou sur l'entraînement, alors ça, dans le mauvais sens du terme, c'est l'entraînement purement naturel, on oublie l'aspect pénitentiel. Vous voyez, si on dit aux petits-enfants, ou même aux chrétiens, lorsque vous cogniez le petit doigt dans un meuble, soyez un homme, ravalez un petit peu votre douleur, arrêtez de couiner, de gémir, et faites un effort pour faire passer la douleur. C'est très bien, il le faut sous un certain rapport. Mais il ne faut pas oublier de dire, si cette douleur que vous ressentez, offrez-la en expiation de tous les péchés que vous avez pu commettre. Bien sûr qu'il faut un entraînement physique, bien sûr qu'il faut, il faut former le caractère. Je ne dis pas le contraire, mais il ne faut jamais oublier la fonction pénitentielle dans tout cela. Pourquoi ? Mais sinon, il n'y a aucune différence entre l'entraînement, l'éducation d'un petit chrétien et l'entraînement, je ne sais pas moi, de tel ou tel pionnier ou de telle ou telle jeunesse et autres de régime fort. Vous voyez, quelle est la différence? La différence, c'est la pénitence. Dans le premier cas, on est prêt à tout faire pour être des hommes forts et écraser nos ennemis. Dans le deuxième cas, on est prêt à tout faire parce qu'il faut être un homme aguerri, bien entendu, et parce que tout ce que nous avons à souffrir sert à expier nos péchés. La raison première des efforts que nous devons faire n'est pas tel ou tel objectif naturel, même si cet objectif existe et qu'il est légitime, et il le faut. Mais c'est la pénitence. La pénitence. Alors vous allez dire, mais les petits-enfants n'ont pas commis de péché, ou si peu, et à quoi bon la pénitence? Mes très chers frères, pour les petits-enfants, ou pour les grands, et pour les vieux, il suffit d'avoir été pendant 9 mois, moins 40 ou 80 jours, marqué par le péché originel, naître de sa maman, vivre encore quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois dans le péché originel et être baptisé, cela suffit pour que nous ayons à faire pénitence toute notre vie. C'est mystérieux, ça semble injuste, mais mes très chers frères, ce n'est pas le sujet. Il faut faire pénitence à quelque âge que l'on soit. Parce que le péché du petit enfant, même si on fait abstraction du péché originel et qu'on parle le péché du petit enfant n'est pas moins grave que le péché de l'adulte. Il est simplement moins grave dans les faits, parce que l'enfant n'a pas la raison, parce que l'enfant a plein de circonstances atténuantes qui sont prises en compte, bien entendu. Mais, mes très chers frères, tout péché offense la justice infinie du Dieu infiniment saint. Que nous soyons un petit enfant ou un vieillard, tout péché offense la justice infinie de Dieu, et tout péché Et pour tout péché, nous devons faire pénitence, et pour toute pénitence faite, nous devons en avoir les fruits. Nous avons donc ce principe, mes très chers frères, que la pénitence doit être proportionnée au crime commis. C'est une chose qui est totalement oubliée de vue aujourd'hui, puisque certaines théories dans la théologie morale ont prévalu, et qui consistent à dire que plus la pénitence est énorme, plus le crime est énorme, plus la pénitence doit être petite, parce qu'il ne faut pas décourager. Et puis, sous un certain rapport, ce n'est pas faux, il n'y a pas de proportion entre la pénitence que nous pouvons faire et le crime, puisque de toute façon, la pénitence a été accomplie par le Christ lui-même sur la croix, sachant que notre propre pénitence est une association aux souffrances expiatrices du Christ. En aucun cas, la pénitence ne remet réellement nos péchés. La pénitence remet la dette. Le Christ a expié la pénitence, a payé le prix réel que nous valaient nos péchés par rapport à Dieu. Mais la pénitence, en union avec les souffrances du Christ, les souffrances expiatrices et inimitables du Christ, la pénitence nous fait compenser, éponger en quelque sorte la dette subjective que nous avons vis-à-vis de la, ou en tout cas la dette morale que nous avons vis-à-vis de la justice divine. Alors nous n'entrons, ce n'est pas un cours de théologie, nous n'entrons pas dans les détails ici, mais sachant que la pénitence doit être proportionnée au crime. C'est ce qu'on oublie un petit peu trop souvent, hélas. Parce que cela, ça réserve des, pour ceux qui arrivent quand même de l'autre côté au bon endroit, cela leur réserve des drôles de surprises, en réalité. La pénitence doit être proportionnée au crime commis. Nous ne devons rien ôter, nous dit un auteur moraliste, nous ne devons rien ôter à Dieu d'un côté que nous ne le rendions de l'autre. Sachant que, par exemple, j'ai été négligent tel jour dans la lecture de l'Écriture sainte, aujourd'hui, je dois ne pas être négligent. C'est une bonne chose, effectivement. Mais en n'étant pas négligent aujourd'hui, je ne fais que faire ce que je dois faire. Donc, d'une certaine manière, ce que je fais par rapport en pénitence dans mon application aujourd'hui, par rapport à la même action que j'ai mal faite hier, en quelque sorte, ne fait qu'éponger à peu près la moitié, si j'ose dire, si j'ose rentrer dans les calculs, que la moitié de la dette. Puisque si je ne faisais pas ce que je faisais aujourd'hui, je commettrais un péché. Donc je ne fais pas des œuvres surérogatoires qui compensent, alors que Dieu ne m'a pas dit. On peut arriver à faire des œuvres surérogatoires, mais enfin, ne soyons pas trop optimistes sur nos forces, mes très chers frères, ne soyons pas non plus téméraires. Les œuvres surérogatoires, on les fait lorsque la charité est tellement parfaite qu'elle devient héroïque. Voilà. Entre-temps, on ne fait que compenser péniblement certaines choses qu'on a faites et dont la dette s'accumule à mesure que nous négligeons les autres choses que nous devons faire par la suite. Tout ceci, je sais très bien que cela, c'est le thème du sermon aussi, hein, mais tout ceci peut paraître assez éreintant, éprouvant, mais vous allez voir, nous terminerons dans l'esprit de l'Église, et parce que nous sommes dans l'esprit de l'Église. Nous ne devons rien ôter à Dieu d'un côté que nous ne lui rendions de l'autre. C'est au jugement du prêtre, nous devons nous remettre au jugement du prêtre lorsque nous entrons dans le confessionnal. Nous ne venons pas dans une salle de bain pour nous laver les mains avec un robinet qui de toute façon ne peut que nous faire couler de l'eau propre et avec à côté un savon qui est pour nous. Nous rentrons dans un tribunal. Et quel que soit le jugement du juge, nous devons nous y soumettre. Alors malheur à ceux qui ont des mauvais juges, c'est-à-dire des directeurs laxistes, etc. Bon, effectivement. Mais nous ne devons pas entrer dans le tribunal de pénitence, la tête haute, en disant « voilà, j'ai fait ça, mais après tout, j'ai lu dans mon sergogle, etc. » Non, j'entre très humblement, j'oublie tout, de toute façon, je ne sais rien, j'oublie tout et je m'en remets au jugement du prêtre. Et le jugement du prêtre, c'est le jugement de Dieu. C'est pour cela que, après s'être posé cette question fondamentale, « que vais-je faire ?» L'économe de la parabole dit « je sais ce que je ferai, je sais ce que je ferai ». Savez-vous pourquoi il dit « je sais ce que je ferai » au second degré d'interprétation? Eh bien, mes très chers frères, le salut vient de la charité. Et celui qui n'aime pas Dieu ne sait pas et ne sait jamais ce qu'il doit faire. C'est pour ça que vous avez des gens, des demi-chrétiens, des chrétiens dans lesquels, en quelque sorte, la charité et la concupiscence est à peu près à égalité, si c'est possible, mais si c'est le cas, c'est que c'est la concupiscence qui prime un petit peu. Et ils disent, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas, j'hésite, je ne sais pas quoi faire exactement pour faire de la pénitence. Si vous aimiez Dieu, vous sauriez. Si vous vous étiez dit sérieusement, mais que vais-je pouvoir faire? puisque je ne peux pas travailler la terre, etc. Tout d'un coup, vous auriez reçu la lumière. Et vous pourriez dire, je sais ce que je ferai. Cette lumière, on la reçoit avant tout, mes très chers frères, par le jugement de notre confesseur. Je sais ce que je vais faire, parce que ce que je vais faire m'a été imposé en pénitence. Mais il y a plus que cela, parce qu'on pourrait faire cette pénitence sans charité, et nous ne ferions qu'accumuler encore des péchés. Je sais ce que je ferai, dans la mesure où je commence à aimer Dieu. Donc quand je recommence plus précisément à aimer Dieu, je sais ce que je dois faire. Certains auteurs, je ne le reprendrai pas ici au risque d'allonger un petit peu, et puis de paraître trop enthousiaste, mais certains auteurs nous disent que dans la mesure où l'on aime Dieu, on n'a même plus besoin d'avis de qui que ce soit, on sait ce qu'on doit faire. Alors il faut toujours prendre des avis, bien entendu, mais on sait ce qu'on doit faire. Je sais ce que je ferai. Lorsque celui qui aime Dieu et qui écoute l'Église dans la personne, dans la voix de son confesseur, lorsque celui qui aime Dieu écoute l'Église, il reçoit l'illumination intérieure. Oh, pas une grande illumination, mais une illumination suffisante pour être certain de ce qu'il faut faire. Je sais ce que je ferai. Que dit-il ? Eh bien, il ne dit plus rien et il agit. Ayant donc fait venir l'un après l'autre les débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître ? Celui-ci répondit, 100 mesures d'huile. Et l'économe lui dit, prends ton obligation, assieds-toi vite et écris 50. Tout d'un coup, les actions s'enchaînent. Écris vite. Pourquoi écris vite ? Parce que je suis pressé. Écris vite 50. Alors vous allez dire, mais c'est la dernière des malhonnêtetés. L'interprétation de cette parabole, et les choses ne pourraient pas être expliquées autrement, c'est que, mes très chers frères, nous devons comprendre que dans la mesure où nous remettons à aimer Dieu, nous allons utiliser tout ce qui est à notre portée, tout ce qui relève de notre gestion, puisqu'il s'agit ici de la gestion des débiteurs du maître, et il est l'économe en chef. Tout ce qui relève de notre état doit être mis à profit pour faire pénitence et donc pour nous sanctifier. Car il y a une grande vérité, c'est que en faisant pénitence, on se sanctifie. Bien souvent, on veut se sanctifier sans faire pénitence, mais celui qui fait pénitence se sanctifie, même s'il n'en a pas conscience. C'est ça qui est formidable. Alors, je serai ce que je dois faire. Si l'on ne peut se livrer aux austérités, mes très chers frères, les auteurs nous disent au moins pratiquons le jeûne. On ne peut pas forcément porter un cilice tout le temps, on ne peut pas vivre comme les grands athlètes de la foi que nous lisons dans les livres des époques héroïques. Ce n'est pas donné à tout le monde, ça dépend aussi de l'État, dans tous les États ce n'est pas forcément praticable. Donc ce que nous pouvons faire, c'est pratiquer des austérités selon nos possibilités. Et quand nous disons selon nos possibilités, si j'ose dire, mais comprenez bien, je vais le dire d'une façon peut-être un peu, après il faut consulter bien sûr le confesseur, mais selon nos possibilités, ce n'est pas selon notre médecin. Vous voyez, ou notre coach en bien-être, équilibre, santé, etc. Selon nos possibilités. Je ne peux pas pratiquer les grandes austérités des pères du désert, je vais donc jeûner. Oui, mais vous voulez votre ciel ou pas ? Si nous ne pouvons pas pratiquer de très grandes austérités, pratiquons de petites austérités, dont le jeûne. Si nous ne pouvons pas, nous disent les auteurs, être assidu dans la prière parce que nous avons un état qui est un état de laïc et qui ne nous permet pas d'être constamment dans la récitation de l'office, l'office divin, constamment dans la prière, ce n'est pas matériellement possible, faisons des aumônes pour que nous prions pour que l'on prie pour nous. Il y a toute une doctrine ici par rapport aux pauvres, les pauvres qui reçoivent des aumônes, sont tenus de prier pour ceux qui leur font l'aumône. Ceux qui donnent l'aumône sont tenus, sous un certain rapport, au moins implicitement, de demander les prières de ceux auxquels ils font l'aumône. Cela peut déterminer d'ailleurs un peu qui, même si il faut donner sans pour l'amour de Dieu, mais il y a aussi une façon de faire de l'aumône dans le cadre de la pénitence. Aujourd'hui, on en parle trop parce que c'est des questions d'argent, mais d'une certaine manière, vous voyez, Pensez-y, c'est une façon, c'est notre Seigneur qui le dit d'une façon brutale et dure pour que nous puissions le comprendre, c'est une manière d'acheter le ciel avec les mammonias, avec les richesses d'iniquité. Il s'agit ici d'acheter le ciel. Alors vous allez dire, c'est curieux cette manière de parler, on dirait de la simonie. Ce n'est pas de la simonie, c'est un exemple paradoxal pour nous faire comprendre à nous, méchants comme nous sommes, quelque chose qui soit utile à notre vie spirituelle. Il ne s'agit pas d'acheter le ciel, bien entendu, ça serait un horrible sacrilège, ça serait impossible. Personne ne peut nous vendre le ciel, on ne pourrait que l'acheter à un escroc, ou alors l'acheter à Dieu, et Dieu ne vend pas. Mais il s'agit de se délester de ces mammonias, qui sont les nôtres et que nous avons acquis, mais alors on les a acquis, mais est-ce que nous les avons acquis la plupart du temps, surtout si nous acquérons de grandes fortunes, avec toute l'honnêteté possible? Est-ce que tous ces bénéfices, ces profits que nous avons faits parce que nous sommes commerçants, est-ce que nous les avons faits toujours dans le strict respect des règles de l'honnêteté? Est-ce que nous avons, lorsque nous avons reçu tel ou tel présent, telle ou telle chose autrefois, est-ce que c'était vraiment dans un esprit de, est-ce que nous pourrions le faire maintenant que nous sommes chrétiens? Vous voyez, mes très chers frères, et encore plein d'autres choses qui sont du ressort de la direction spirituelle. Nous avons ces richesses d'iniquité qui nous sont commises, qui nous sont prêtées, pour que nous les utilisions dans le cadre de notre devoir d'État, eh bien, en les utilisant dans le cadre de notre devoir d'État, nous devons les utiliser de telle sorte qu'elles puissent nous préparer des amitiés célestes. C'est une parabole qui est extrêmement dure, parce qu'elle est extrêmement paradoxale, mais nous devons comprendre que notre situation est extrêmement délicate, puisqu'il s'agit ici de la répétition générale avant le jugement dernier. La gratitude, voyez-vous, mes très chers frères, est généreuse. Elle est généreuse. Autrefois, même jusqu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, le mot généreux, quand vous lisez dans les livres anciens, dans nos livres, vous lisez généreux, une fois généreux signifie courageux aussi. Généreux, ce n'est pas simplement qui donne, mais c'est qui est courageux. La gratitude est généreuse, elle est courageuse. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment reconnaissant envers ce que Dieu a fait pour vous, envers cette immense miséricorde dont il vous a gratifié en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, soyez courageux dans les actions de pénitence qui manifestent négativement l'amour que vous avez pour vous, pour lui. Plus on a d'indulgence envers soi-même, et plus on trouve le principe de réparation absurde, abusif ou inutile. Nous devons nous juger avec la même nous-mêmes avec à la lumière. Nous serons jugés avec la même mesure que nous aurons utilisée pour juger les autres, nous dit notre Seigneur en de nombreux passages. Combien dois-tu à mon maître? Combien dois-tu? Vous voyez, mes très chers frères, l'interprétation morale de cette parabole, c'est combien me dois-tu d'offense à moi? Combien de fois m'as-tu, toi, mon prochain, vexé, outragé, négligé, maltraité? Eh bien, je te remets ta dette. Voilà ce que les auteurs nous enseignent à propos de cette parabole paradoxale. Combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile. Assieds-toi vite et écris 50. Mon prochain a une dette énorme envers moi. Je la lui remets afin que dans le ciel, on puisse m'accueillir. Et ainsi de suite. Combien dois-tu? Nous devons pardonner, mes très chers frères, comme Dieu nous pardonne. Tout ceci ne nuit pas à l'ordre des choses, bien entendu. De toute façon, dans le moindre doute ou la moindre question, il faut consulter. Il faut consulter, bien entendu, son directeur. Mais, voyez, combien me dois-tu? Eh bien, parce que j'ai une dette immense envers Dieu, je te rends tout. Cela renvoie, bien sûr, à une parabole que nous verrons peut-être prochainement. Et c'est, bien sûr, la parabole du serviteur impitoyable. Mais dans le cas ici, c'est le contraire du serviteur impitoyable. C'est le serviteur qui a compris. Il s'est remis à aimer Dieu, il a compris que s'il veut vraiment faire pénitence, il doit tout subir en esprit de pénitence. On est injuste avec moi, mon Dieu, je l'accepte. en esprit de pénitence. Je me suis fait mal, je me suis blessé, j'ai perdu quelque chose. Mon Dieu, je l'accepte en esprit de pénitence. On me traite mal, mon Dieu, je l'accepte en esprit de pénitence. Oui, mais c'est injuste. Mais si ce n'était pas injuste, ça ne vaudrait rien. On me loue, est-ce qu'on vous allait dire, madame, votre plat est délicieux, mon Dieu, je l'accepte en esprit de pénitence. Alors oui, pour les plus spirituels, on pourrait, bien sûr qu'on pourrait, mais pour la plupart du temps, mes très chers frères, on me loue, je tourne vers Dieu, je dis merci. Et de tout ce que j'arriverai à faire, c'est dire, Deo gracias, c'est quand même par la grâce de Dieu, j'ai été vaguement aidé par Dieu. Voilà tout ce que j'arrive à faire la plupart du temps quand on loue. Donc il faut vraiment que Dieu me pourvoie, lui qui est si généreux envers moi en occasion de faire pénitence, il me pourvoie des vraies occasions de faire pénitence. On pourrait, bien entendu, faire pénitence. Je reçois une louange. Je la prends spirituellement comme une injure et je me tourne vers Dieu exactement comme si j'avais reçu une injure. Oui, mais là, il faut un tout petit peu d'entraînement. Donc, en attendant, mes très chers frères, il faut tout supporter. Tout supporter, tout endurer, tout accepter en esprit d'expiation. Souvent, on dit, il faut faire son purgatoire ici-bas, c'est ce qui arrive, on le dit quand on a une contrariété, quand on se fait que... Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on y pense vraiment? Le purgatoire, c'est comme l'enfer, sauf qu'il débouche sur une purification qui va au ciel. Faire son purgatoire ici-bas, mes très chers frères, c'est bien souvent une moquerie. Lorsque la Sainte Vierge à Lourdes dit pénitence, faites pénitence, qu'est-ce que ça veut dire? Faire pénitence, mes très chers frères, c'est se jeter à corps perdu dans cette intransigeance et cette inflexible dureté et ce jugement inexorable envers nous-mêmes, afin que Dieu nous fasse miséricorde. Plus nous nous ferons miséricorde, moins Dieu nous fera miséricorde. Plus nous serons impitoyables envers nous-mêmes, plus au ciel, notre Père Céleste nous accueillera avec les bras grands ouverts. Alors mes très chers frères, je suis conscient que tout ceci peut sembler bien dur, mais en même temps, c'est la parole de Dieu, je ne suis qu'un répétiteur de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église nous met dans la bouche ces paroles du graduel, « Mon Dieu, et nous devons les faire nôtres, « Mon Dieu, je mets en vous mon espoir, Seigneur, que jamais je ne sois confondu, surtout pas, par ma négligence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »